Une semaine d'actualité, Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information, un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est un essayiste et géopolitologue français. Il est professeur de relations internationales à la Paris School of Business, maître de conférences à Sciences Po Paris, directeur de séminaire à l'Institut français de géopolitique et il est également intervenant à l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour Éric Bataillon.
Alors si votre dernier ouvrage était une petite leçon de diplomatie qui vous a valu d'être reçu il y a quelques mois dans cette même émission, ce n'est pas pour cela que nous vous avons invité, mais pour parler du Tchad. En effet, Frédéric Ancel, ce pays occupe une position stratégique, c'est en quelque sorte la porte de l'Afrique pour le Moyen-Orient.
Oui, la porte et même quelque part le verrou, hein, si on veut utiliser, comme on le fait très, très souvent, ce type de métaphore. C'est un pays qui se trouve aux confins de différents États effondrés. Un pays effondré, c'est un pays dans lequel le gouvernement n'a plus la main mise, hein, ne dispose plus des prérogatives régaliennes en quelque sorte sur son territoire et qui est disloqué. Bon, c'est le cas de la Libye. C'est notamment la Libye, alors je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais le Tchad jouxte également le Soudan. Or, il n'aura échappé à personne parmi vos auditeurs qu'en 2014, le Soudan a perdu son sud, c'est-à-dire, entre autres, son pétrole. Et puis, il y a eu des bisbilles déjà très dures, militaires, hein, entre le Tchad et le Soudan. Et de l'autre côté, à l'ouest du Tchad, nous avons bien évidemment la désagrégation d'une partie du nord-est du Nigeria sous les coups des islamistes radicaux de Boko Haram. Et j'ajoute un point important, c'est que le Tchad dispose de la seule armée qu'on peut qualifier de sérieuse. Il ne s'agit pas pour moi évidemment de mésestimer les efforts qui sont faits par les autres États de la région et du Sahel notamment, mais l'armée tchadienne, elle a démontré qu'elle savait tenir des frontières, qu'elle savait se battre. Autrement dit, si le Tchad tombe, au sein de la population tchadienne et au sein du pouvoir il devait y avoir des tensions si fortes que cette armée ne pouvait plus jouer son rôle de protecteur du Sahel aux côtés des Français, eh bien ce serait désastreux.
Alors nous y reviendrons dans cette émission, Frédéric Ancel. Alors, dans quelques instants, nous parlerons à la fois de la bataille de Fallujah en Irak et de la reconnaissance par l'Allemagne du génocide arménien en Turquie. C'est un fait important. Avant cela, je vous propose d'écouter le président du Sénégal, Macky Sall, à propos du procès de l'ancien président tchadien, Hissène Habré, qui s'est achevé lundi à Dakar. Macky Sall était invité de la rédaction Afrique jeudi matin.
Depuis plus de 20 ans, le procès Habré était dans toutes les lèvres, mais on n'arrivait pas à organiser dans des conditions équitables d'un procès. La Belgique avait demandé à le juger. Moi, j'avais considéré que l'Afrique ne devait pas exporter ses dirigeants, même s'ils sont accusés des crimes les plus odieux, que le continent devrait pouvoir organiser lui-même ce procès. C'était ça le challenge et nous avons pu, avec l'Union africaine, signer une convention, un accord qui a permis la création des chambres africaines extraordinaires dans la cour d'appel de Dakar. Ce qui a été important, c'est que finalement ce procès s'est tenu dans des conditions optimales de respect des droits du prévenu et je crois nulle part l'État n'a interféré dans le déroulement de ce procès.
La bataille de Fallujah en Irak a bel et bien commencé en début de semaine et elle s'annonce longue et bien plus difficile que prévu. Il faut dire que cette ville de 250 000 habitants, située à environ 65 km à l'ouest de Bagdad, est très importante pour l'État islamique, comme nous l'explique Eli Tenenbaum. Il est chercheur au Centre d'études et de sécurité de l'Institut de recherche IFRI.
Fallujah est encerclée en fait depuis de longs mois déjà. Et Daesh a véritablement conçu cette place tactique comme une place forte, comme un bastion, un hérisson, on appelle ça dans le langage militaire, qui ralentirait, qui serait une épine dans le pied du dispositif irakien, l'empêchant d'aller sur le théâtre principal que serait l'attaque vers Mossoul. Donc en ralentissant et en créant cet abcès de fixation des forces irakiennes très loin derrière la ligne de front, ils permettent de gagner du temps et de préparer les défenses sur le cœur du territoire de l'État islamique.
Du coup, cette stratégie inquiète les organisations non gouvernementales qui craignent pour les civils piégés dans la ville. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés affirme d'ailleurs que ces civils sont utilisés comme boucliers humains par l'État islamique. William Spindler est son porte-parole.
le nombre de personnes qui ont quitté Fallujah s'élève maintenant à 3700. Ces informations viennent des autorités irakiennes. Une bonne partie des personnes qui ont fui la ville de Fallujah se trouvent dans un camp pour des personnes déplacées internes, camp de Al-Irak, où l'ACR est en train de travailler pour les aider. Et les autres sont éparpillés dans des différents camps. En même temps, on a eu des informations qui viennent justement des personnes qui ont quitté Fallujah, selon lesquelles Daesh utilise des civils comme des boucliers humains.
Et plus au nord de l'Irak, autre front anti-État islamique, les Kurdes, là, ne combattent pas aux côtés des milices chiites, mais aux côtés des milices sunnites. Objectif, évidemment, Mossoul. Oriane Verdier.
Sur la ligne de front la plus proche de Mahmoud, des monticules de terre ont été construits tous les 300 mètres. Pour accéder à celui sur lequel flotte le drapeau kurde des Peshmerga, il faut d'abord passer devant trois autres postes qui arborent les couleurs de l'Irak. Ils sont tout de même tenus par des Kurdes, soldats de l'armée nationale irakienne. Les Peshmerga, eux, répondent au gouvernement régional du Kurdistan, mais ils partagent leur positionnement avec les hommes d'une tribu arabe sunnite originaire de la région de Mossoul. Le chef de cette tribu nous reçoit dans une tente aux côtés de membres de l'armée irakienne et de Peshmerga. Tous sont venus présenter leurs condoléances. La veille, six hommes de cette tribu sont morts lors de la libération d'un village voisin. Grand absent de cette image d'union, les milices chiites. Les Peshmerga affirment ne pas vouloir des chiites à Mahmoud. Le chef arabe sunnite évite, lui, de répondre aux questions les concernant.
Et puis en Syrie, autre théâtre de guerre, la situation est différente. L'État islamique progresse. Le groupe djihadiste s'est rapproché de la ville d'Azaz, par laquelle transitent les combattants soutenus par des pays étrangers qui affrontent les djihadistes. État islamique et rebelles sont en conflit dans un mouchoir de poche de quelques dizaines de kilomètres carrés entre Alep et la frontière turque. Le contrôle de cette dernière est un enjeu essentiel pour chacun des camps en présence. Frédéric Ancel, la bataille de Fallujah, donc, c'est un point important pour la conquête ou la reconquête des territoires.
Oui, et pour tout le monde, pour le coup, parce que si c'est important pour l'État islamique qui a pris en quelque sorte une espèce de revanche au nom du monde musulman, prétendument, hein, bien évidemment, après la victoire américaine de Fallujah à la fin des années 2000, c'est également très important pour l'opposition à Daesh et notamment les chiites. Pourquoi ? Parce que Fallujah, vous l'avez très bien rappelé, c'est sunnite. Et les milices, les fameuses milices chiites qui tiennent aujourd'hui Bagdad et l'ensemble du sud chiite du pays, sont accusés régulièrement de n'en faire que pour elles finalement. C'est-à-dire que on les trouve extrêmement mollassonnes, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le front de Mossoul. Parce que Mossoul, c'est 1,5 million de personnes, des sunnites. Et on sait très bien que les sunnites ne veulent plus vivre sous la coupe des chiites, et d'ailleurs vice-versa, d'où beaucoup de sunnites qui ont quitté l'armée régulière et qui sont allés rejoindre justement Daesh. Or, Fallujah, il est plus facile en quelque sorte de s'en emparer que Mossoul. Ce n'est que 250 000 habitants, peut-être même moins maintenant.
Mossoul, c'est 1,5 million environ.
Voilà, c'est ça. Et par conséquent, si l'armée régulière, majoritairement chiite, irakienne, réussit à s'emparer, avec d'autres forces bien sûr, de Fallujah, eh bien ce sera la démonstration faite au monde que ces milices chiites n'en font pas que pour elles, ne se battent pas que pour des territoires chiites.
Et alors le fait que les Kurdes préfèrent les milices sunnites aux milices chiites dans le nord, c'est un signe ?
Oui, c'est le signe de la volonté de rester autonome, voire même indépendant, parce qu'en réalité, les Kurdes en Irak sont indépendants de facto depuis 2003. D'ailleurs, ils ont voté à plusieurs reprises à une écrasante majorité en faveur de l'indépendance. Ils ne l'ont pas encore proclamé parce que les Américains exercent des pressions sur eux, puisque la Turquie, bien évidemment, n'en veut pas de cette indépendance kurde. Mais en réalité, les Kurdes veulent rester indépendants. Or, ce qui reste de l'Irak, on vient de le dire à l'instant, l'Irak le plus riche, et puis la capitale, Bagdad, c'est chiite. Donc les Kurdes, qui sont des sunnites, faut le rappeler, ne veulent pas retomber sous la coupe des chiites. Et par conséquent, ils s'allient avec des tribus. C'est pas totalement nouveau, et je le dis d'un mot. Ça rappelle qu'en Irak, et dans une moindre mesure en Syrie, au Yémen ou en Libye aussi, bien sûr, on fonctionne de manière clanique et tribale. L'État-nation ne signifie pratiquement rien dans ces pays-là, et les frontières ont été bâties artificiellement par les Occidentaux. On a beaucoup parlé de Sykes-Picot ces dernières semaines, à juste titre, et par conséquent, on revient à la fin des fins, lorsqu'il y a combat ou tension, à l'allégeance originelle, qui est une allégeance clanique ou tribale.
Une semaine d'actualité.
Hier à Paris, François Hollande a appelé la communauté internationale à se remobiliser sur le conflit israélo-palestinien lors d'une conférence réunissant une trentaine de pays et d'organisations internationales, dont d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le président français a malgré tout souligné que le choix de la paix reviendrait in fine aux deux parties concernées. Et puis l'Allemagne reconnaît la responsabilité de la Turquie dans le génocide arménien de 1915. Le Parlement a voté une résolution en ce sens jeudi. Pascal Thibault à Berlin.
C'est à la quasi-unanimité que le Bundestag a adopté une résolution reconnaissant le génocide arménien. Un député a voté contre, un autre s'est abstenu, deux chrétiens démocrates. Les orateurs qui ont pris la parole durant les débats ont à plusieurs reprises souligné que leur texte n'était pas dirigé contre le gouvernement actuel de la Turquie, mais concernait la responsabilité de l'Empire ottoman et que l'objectif était de créer les bases d'une nécessaire réconciliation entre Turcs et Arméniens. La résolution du Bundestag évoque également la responsabilité de l'Allemagne, alliée durant la Première Guerre mondiale de la Turquie. Berlin, informé des intentions d'Ankara, n'avait pas réagi. Ces déclarations modérées, déjà formulées en amont, n'auront pas suffi à réduire les critiques véhémentes d'Ankara. Le Premier ministre Yildirim avait évoqué un impact défavorable pour les relations entre les deux pays. D'après différentes sources, l'ambassadeur turc en Allemagne serait rappelé, comme cela était le cas lors de l'adoption de textes similaires dans d'autres pays. Cette résolution intervient alors que les tensions sont sensibles entre Berlin et Ankara. Les menaces faites sur l'application de l'accord sur les réfugiés inquiètent en Allemagne. Angela Merkel a préféré ne pas assister au débat parlementaire au Bundestag.
Les ponts sont momentanément coupés entre Riyad et Téhéran à propos du Hajj. L'Iran a annoncé dimanche qu'il n'enverrait pas cette année de fidèles au grand pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite pour protéger ses ressortissants un an après la gigantesque bousculade qui avait fait 2300 morts, dont 464 Iraniens. Chaque année, des milliers d'Iraniens se rendent à la Mecque. Nicolas Falaise.
Selon l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite qui est à l'origine de cet échec. La République islamique assure que le royaume a rejeté les demandes iraniennes concernant la sécurité et le respect des pèlerins. Et Téhéran accuse Riyad de s'opposer au droit absolu des Iraniens d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Côté saoudien, on affirme au contraire avoir répondu à toutes les demandes iraniennes en acceptant par exemple de délivrer des visas électroniques permettant aux Iraniens de voyager malgré la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays depuis le début de cette année. Le ministre saoudien des Affaires étrangères assure que son pays n'empêche personne d'effectuer le pèlerinage et selon lui, l'Iran avait posé des conditions inacceptables en demandant notamment le droit de manifester sur le sol saoudien. C'est la deuxième fois en quelques semaines que des négociations échouent entre les deux pays. Aucune nouvelle tentative n'est annoncée pour le moment entre deux puissances que tout oppose dans la région. Même l'organisation d'un pèlerinage religieux qui, l'année dernière, a concerné 60 000 Iraniens.
En Égypte, le président et deux membres du conseil d'administration du syndicat des journalistes ont été détenus et doivent comparaître ce samedi devant le tribunal correctionnel du Caire. Ils sont accusés, entre autres, d'avoir abrité des personnes recherchées par la justice. Les autorités égyptiennes ne sont pas les seules à ne pas aimer la presse. Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, non plus. Conférence après conférence, il ne cesse de critiquer les journalistes, comme nous le rapporte Anne-Marie Capomaccio depuis Washington.
Les journalistes vont devoir s'y habituer. Donald Trump ne les aime pas.
Vous connaissez mon opinion sur la presse, elle est mauvaise. Je pense que les journalistes, la plupart en tout cas, ne sont pas des gens bien. La presse est si malhonnête et si injuste.
Les journalistes qui ont osé enquêter sur le retard dans la distribution des fonds aux vétérans ont été pointés du doigt et traînés dans la boue. Et lorsqu'un reporter fait remarquer au milliardaire qu'une candidature à la présidence va avec une certaine transparence et qu'il devra s'habituer à l'attention des médias, Donald Trump assure qu'il ne changera pas ses manières, même à la Maison-Blanche. Dans tous ses meetings déjà, le milliardaire fait huer la presse par ses supporters, il insulte les journalistes en public ou sur les réseaux sociaux. Les médias américains ont pourtant donné deux fois plus de temps d'antenne au candidat Trump et ses excès qu'à la démocrate Hillary Clinton. Mais cela ne suffit pas. Le candidat a d'ailleurs à plusieurs reprises déploré l'étendue de la liberté d'expression garantie par la Constitution. Les journalistes américains, peu impressionnés, rendaient compte hier avec ironie de cette conférence de presse règlement de compte. Voilà qui ne va pas les réconcilier avec le candidat.
Et Frédéric Ancel, finalement, les journalistes ne sont jamais aussi peu aimés que lorsqu'ils font leur métier, dire les choses telles qu'elles sont.
Évidemment, et surtout, ils sont détestés par les populistes. Si vous voulez, le degré d'admission, d'acceptation de la démocratie médiatique, et en particulier du travail des journalistes, est un critère extrêmement intéressant. En général, c'est l'un des meilleurs critères critères, hein, pour jauger du niveau de démocratie ou au contraire d'autoritarisme et en l'occurrence de populisme, puisque lui n'a pas les leviers de pouvoir pour l'instant, en tout cas Donald Trump. Bon, pour jauger donc de ce degré de populisme et d'intolérance. Hein. Vous avez ça, vous avez l'homophobie, vous avez le racisme, vous avez plein de choses comme ça. Mais le rapport aux journalistes, ça ne trompe pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le cadre de sa campagne, Trump est surtout perçu comme quelqu'un de dangereux parce que son intolérance vis-à-vis de la liberté des médias et des journalistes et le ton et l'insolence qu'il emploie vis-à-vis des journalistes.
Alors parlons maintenant de la conférence de Paris sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que, à votre avis, c'est un coup d'épée dans l'eau, un énième ?
En tout cas, c'est bien tenté. D'abord parce que y a pas de raison que la France n'y soit pas. Les États-Unis, depuis 1982, sont absolument omniprésents et omnipotents au Proche-Orient. Je dis 82 parce que c'est l'application de Camp David, hein, de 78. Et puis 82, c'était aussi la grande idée de François Mitterrand de réunir à Paris une grande conférence internationale, précisément. Alors, oui, donc l'idée n'est pas neuve, mais en même temps, d'une part, les Américains se retirent relativement du Proche-Orient. C'est structurel, mais c'est aussi conjoncturel puisqu'on est en pleine année électorale et présidentielle et par conséquent, il n'y aura rien avant au moins 6-8 mois. Et d'autre part, les Français sont très présents sur l'ensemble du Moyen-Orient et du monde arabe depuis plusieurs années. Depuis la Libye en 2011, dont on pense qu'on veut, mais enfin les Français étaient en pointe dans l'affaire libyenne. Au Mali, c'est la France qui se bat. Lors de la crise des gaz neurotoxiques syriennes, il y a 3 ans de cela, c'est François Hollande qui était resté, j'allais dire, seul debout, alors qu'Obama avait finalement accepté le plan russe. C'est encore la France qui a été en pointe dans le dossier, dans les négociations du nucléaire iranien pendant 3 ans de cela. C'est la France qui a 2 bases militaires en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Alors pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'il eût été stupéfiant que la France ne revînt pas sur un dossier qu'elle considère, en plus de cela, comme étant extrêmement important et au moins en partie de son ressort. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis que épée dans l'eau, je ne sais pas, on verra bien. Très franchement, je ne suis pas très optimiste sur le deuxième volet, qui sera en principe le plus important, celui qui concernera les deux acteurs très directement. Mais au moins, la France devait tenter.
Alors, parlons du Tchad. On l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission. Vous tirez la sonnette d'alarme à propos de ce pays. Idriss Déby a été réélu pour un 5e mandat au mois d'avril. Est-ce que c'était une bonne chose et des gens se sont élevés contre, à votre avis ?
Eh bien, ils ont bien fait, ces gens-là, parce que en Afrique subsaharienne en particulier, ces dernières années, les populations tolèrent de moins en moins les mandats à rallonge. Ils tolèrent de moins en moins, on l'a vu encore récemment d'ailleurs aussi au Burundi, on l'a vu dans d'autres pays, ils tolèrent de moins en moins les deuxième, troisième, quatrième, cinquième mandats, y compris lorsqu'il faut tripatouiller la Constitution. Idriss Déby est là depuis très longtemps. Son bilan, il n'est pas, je dirais pas qu'il est pas totalement négatif. Sur le plan économique, par exemple, il y a eu des avancées. Sur le plan infrastructurel, il y a eu des avancées. Le problème n'est pas là. C'est que l'Afrique s'avance, et l'Afrique subsaharienne en particulier, vers toujours un peu plus de démocratie qu'à un cas. Et encore une fois, c'est pas les Français, les Anglais ou les Américains qui doivent donner des leçons, surtout pas. Mais les Africains eux-mêmes, on l'a bien vu à maintes reprises ces dernières années, ne veulent plus de ces présidences à rallonge. Et Idriss Déby, il est à la tête d'un État et d'une armée depuis extrêmement longtemps. Je le disais il y a un instant, si au-delà du débat moral sur le maintien au pouvoir de façon extraordinairement longue, si cette armée était employée pour autre chose, à d'autres tâches que celle de défendre évidemment les frontières, d'empêcher les islamistes radicaux de Daesh de passer par le sud de la Libye pour rejoindre Boko Haram, d'empêcher justement Boko Haram de continuer ses exactions au niveau du lac Tchad. Bref, si le Tchad ne pouvait plus jouer son rôle de stabilisateur à cause de cette présidence à rallonge et des conséquences sociales et sociétales que cela provoquerait, alors ce serait très grave pour l'ensemble du Sahel. C'est, vous avez raison de parler de sonnette d'alarme, c'est ça que je voudrais tirer et je le fais depuis plusieurs mois.
Est-ce que le régime ne tient pas finalement essentiellement avec ses officiers des tribus du Nord, les Agawas, qui occupent des postes importants dans l'armée ?
Bien sûr, les Agawas sont la clé de voûte de l'armée tchadienne, la clé de voûte par conséquent du pouvoir de Idriss Déby. C'est fort bien pour eux, c'est très contesté et contestable du point de vue des autres clans, des autres tribus et d'une grande partie de la population, notamment N'Djamena, c'est-à-dire qu'au sud du pays, où on commence à en avoir assez de cette mainmise. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu. Et par conséquent, le Tchad, effectivement, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Alors, il n'y a pas eu énormément de remous, pour être très très honnête. Il y en a eu moins, par exemple, qu'au Burundi. Mais je pense que le Tchad reste, pour les raisons qu'on vient de voir, un pays très fragile.
Frédéric Ancel, nous marquons une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
En sol majeur,
vous pourrez vivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité, Éric Bataillon.
Nous sommes en compagnie de Frédéric Ancel, essayiste, géopolitologue, professeur de relations internationales à la Paris School of Business et maître de conférences à Sciences Po Paris. Frédéric Ancel, nous évoquions dans la première partie de l'émission la situation du Tchad. Nous en reparlerons dans quelques minutes lorsque nous reviendrons sur l'actualité africaine de la semaine et notamment le procès d'Hissène Habré. Un mot cependant, y a-t-il une route du djihadisme qui se profile entre le Moyen-Orient et l'Afrique? Et cette route passerait-elle par N'Djamena?
Absolument. Alors en tout cas, par le nord du Tchad et le sud de la Libye, puisque Daesh a tenté de s'emparer de Sirte, et avec succès d'ailleurs. Seulement, Daesh est très frappé dans cette zone-là et tente de rejoindre Boko Haram, qui se trouve donc au nord-est du Nigeria, via effectivement le Tchad. Et c'est là où le verrou tchadien prend tout son sens, en quelque sorte. Et par ailleurs, bien évidemment, nous avons une porosité très importante au niveau du Soudan, une porosité volontaire. Hein. Le régime soudanais est parfaitement complaisant vis-à-vis de l'État islamique. Hein. Et puis ensuite, vous gagnez la mer Rouge et de là, vous pouvez remonter vers le Proche-Orient. Et par conséquent, un certain nombre d'armes et d'hommes sont passés par là, effectivement, et donc alors pas directement par N'Djamena, mais effectivement par l'immense région désertique qui correspond au nord du Tchad et au sud de la Libye, c'est-à-dire le Fezzan.
Donc le Tchad, une zone à surveiller en priorité.
Absolument.
Frédéric Ancel, on s'arrête quelques instants, si vous le voulez bien, sur l'actualité en France avec la situation sociale qui ne s'arrange pas, manifestation, grève, blocage de dépôts d'essence et de transport, saccage de mobilier urbain et de vitrines de magasins, comme à Paris, par exemple, vendredi, mais aussi insultes et noms d'oiseaux. La CGT, qui est en pointe dans la contestation, va porter plainte contre le patronat pour diffamation. Et en réponse à cette menace, le MEDEF appelle les entreprises perturbées par les blocages à saisir les tribunaux à leur tour. Thibault Langsade est le vice-président de l'organisation patronale.
Nous, chefs d'entreprise, on aura le bol, nous adhérons, on aura le bol. Je suis moi-même patron, je n'en peux plus. La situation est bloquée et aujourd'hui, c'est un combat qui est extrêmement nocif pour nos entreprises. Donc, il va falloir un moment ou un autre qu'on en sorte. Et les chefs d'entreprise sont légalistes, républicains dans leur démarche. Et voilà, c'est pourquoi nous leur proposons d'utiliser un outil juridique face à une organisation minoritaire. Eh bien, nous pouvons, nous aussi, utiliser des outils juridiques qui sont le délit d'entrave.
Dans le communiqué que le MEDEF a publié, le mot voyou est à nouveau employé.
Enfin, je vous signale juste, quand on envoie un tweet avec un t-shirt ensanglanté et qu'on explique que c'est le t-shirt du MEDEF et bientôt le t-shirt de la CFDT et du Parti Socialiste, ce sont des méthodes de voyous. Il faut maintenant appeler un chat un chat et faire en sorte que les comportements scandaleux puissent être dénoncés.
Affaire à suivre. Une polémique à Paris après l'annonce de l'installation future d'un camp de réfugiés. Ce site, au nord de la capitale, sera aux normes des Nations Unies, mais il ne devrait pas ouvrir avant le mois de juillet. Il suscite pourtant une réaction scandalisée de la droite française, comme nous le donne à entendre le député Les Républicains, Éric Ciotti.
C'est une faute tragique. Créer un camp de migrants à Paris, alors que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui ferme Grande-Synthe, c'est une erreur et au-delà une faute. Ça veut dire qu'on va laisser au cœur de Paris, ou à proximité de Paris, s'installer à nouveau, comme à Calais, une zone de non-droit. C'est très exactement l'inverse qu'il faut faire. Ces camps créent des abcès de fixation, créent des difficultés, créent de la violence, créent des zones de non-droit. Aujourd'hui, il y a des lois dans la République, il faut qu'elles s'appliquent. Ceux qui sont en situation d'être des demandeurs d'asile doivent être placés dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ceux qui sont en situation illégale doivent être reconduits vers leur pays d'origine. Il n'y a pas d'autre attitude à avoir.
Paris qui a accueilli également cette semaine un jardin en mémoire des moines de Tibérine. Rappelons qu'il y a 20 ans, en 1996, 7 moines de ce prieuré du Haut Atlas algérien étaient enlevés et assassinés. Seules les têtes des religieux ont été rendues et l'on ne sait toujours pas qui étaient les ravisseurs, malgré la version officielle. Aujourd'hui, il n'y a plus de moines résidant à Tibérine, mais le prieuré Notre-Dame de l'Atlas, comme il s'intitule, reste ouvert au public et entretenu, notamment ces magnifiques jardins. Autre polémique, celle créée par le joueur de football Karim Benzema. Il accuse Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, de ne pas l'avoir sélectionné par racisme. Une position initiée par l'ancien joueur Eric Cantona, mais qui fait l'unanimité contre elle, a commencé par les joueurs de l'équipe de France eux-mêmes. Écoutez la réaction de Kingsley Coman, jeune attaquant qui évolue au Bayern de Munich et fêtera ses 20 ans pendant l'Euro.
Dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs de couleur, beaucoup de joueurs d'origine différente. Le racisme, je vois pas où il est. Donc, je pense pas qu'il sera envers un seul joueur et pas d'autres joueurs de communautés différentes aussi. Donc, c'est du n'importe quoi. Mais...
Voilà, l'Euro de football qui commence dans une dizaine de jours. La mort d'un grand patron de gauche, André Rousselet, avait 92 ans. Sa carrière l'a tour à tour mené sous les ors du pouvoir, ceux de l'audiovisuel et à la tête de grandes entreprises, comme nous le rappelle Carmen Lussmann.
Le front haut, le visage ovale, le regard perçant, André Rousselet dégage à la fois l'autorité et l'humour. Ce personnage discret a fini par rédiger ses mémoires à plus de 90 ans sous le titre « À mi-parcours ». Rien ne prédestine ce fils d'un magistrat catholique, né en 1922 à Nancy dans l'Est de la France, à s'investir dans la politique aux côtés de l'ex-président François Mitterrand jusqu'à en devenir son exécuteur testamentaire. Rien ne laisse présager que ce même jeune homme qui s'endette dans des casinos arrive à transformer la G7 en la plus grande compagnie de taxis parisiens. Et enfin, à l'âge de 62 ans, André Rousselet a le flair et la persévérance de lancer une télévision payante dans le plus grand scepticisme des années 80. Les débuts sont éprouvants, Canal Plus est surnommé Canal Plouf, mais au bout de 10 ans, il en fait un modèle de réussite dans l'audiovisuel européen. Sans oublier que cet homme au talent multiple investit dans l'art et contribue également à la création d'une marque de chaussures anglaises.
Paris, les pieds dans l'eau, une semaine de pluie continue a fait gonfler la Seine et ses affluents. Certains trains ne traversent plus la capitale et le musée du Louvre a fermé ses portes, le temps de protéger les œuvres stockées en sous-sol. Frédéric Ancel, Karim Benzema veut sans doute faire oublier l'épisode peu glorieux pour lui de la sextape, mais a-t-il vraiment tort quand il dit qu'une partie importante de la France est raciste ?
Il n'a pas tort à voir les résultats des élections régionales assez récemment, mais je crois que ce n'est absolument pas une raison pour agiter à tout bout de champ le racisme et l'islamophobie, parce que on instrumentalise et on galvaude des choses, des phénomènes extrêmement graves. Et je crois d'ailleurs que Didier Deschamps a saisi la justice, on verra bien ce qu'il en sera, ce que les juges diront, mais Benzema a dit bien pire que ça. Il a accusé, je crois, assez directement tout de même, hein, le sélectionneur de ne pas l'avoir choisi pour des raisons liées à son origine. Et on a bien entendu dans votre excellent reportage, l'un des membres de l'équipe de France de foot, mais en réalité, je crois avoir entendu ces derniers jours que la plupart, sinon la totalité, se sont opposés immédiatement à ces propos de Benzema, qui sont des propos absolument irresponsables. Il faut cesser de prendre en otage moral les gens sur la base d'un prétendu racisme.
Sept jours en Afrique.
Avec la condamnation à la réclusion à perpétuité pour Hissène Habré, l'ancien président tchadien était jugé devant les chambres africaines extraordinaires depuis septembre dernier au Sénégal face aux accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture. Le prévenu est resté jusqu'au bout sur sa ligne de défense, le silence. Compte rendu et réaction avec Guillaume Thibault à Dakar.
Une grande clameur, un immense ouf de soulagement et des larmes pour les victimes présentes, pour l'équipe d'avocats qui s'est battue depuis 26 ans, une équipe dirigée par Jacqueline Moudeina qui estime que toutes les condamnations demandées à l'encontre d'Hissène Habré ont été confirmées.
C'est des larmes de joie. L'Afrique vient de juger l'Afrique. C'est le jour de la victoire. Nous venons de gagner. Nous avons gagné sur toute la ligne.
Pour les trois avocats commis d'office qui défendent Hissène Habré, cette condamnation à perpétuité est trop lourde, trop dure et n'est basée, affirme-t-il, sur aucune preuve concrète. Mbaye Sène, l'un des avocats, à la sortie du verdict.
Aucune preuve n'a été rapportée. Et nous, en tant qu'avocats de la défense, nous nous sommes évertués à prouver l'innocence du président Habré. Ce ne serait une surprise pour personne qu'appel soit interjeté de la décision.
Les avocats commis d'office ont 15 jours pour faire appel. À partir de la publication officielle du verdict, Hissène Habré également peut faire appel, lui qui est resté une fois de plus silencieux, impassible à l'énoncé du verdict. À quelques mètres de lui, dans la salle d'audience, Clément Abeifouta, président de l'association des victimes.
Les larmes nous font penser à toute la souffrance que nous avons vécue et je me dis que désormais, plus de Hissène Habré en Afrique, plus de tueries, plus de violations. En tout cas, à nous la joie et plus jamais cela.
Désormais, une nouvelle procédure doit s'engager, celle du dédommagement complexe de toutes ces victimes. Leurs avocats ont également indiqué qu'ils seraient prêts à se battre en cas de procès en appel.
Et parmi les très nombreuses réactions que ce verdict a provoquées, celle, on l'a entendu, de Clément Abeifouta, président de l'association des victimes des crimes du régime Hissène-Habré. Il est ému, mais visiblement, dans ce témoignage, le mutisme du prévenu lui est resté vraiment en travers de la gorge.
Son attitude était une attitude insolente, parce qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui s'est passé au Tchad, qu'il ne soit pas capable de dire quelque chose, ne serait-ce que dire « des choses se sont passées au Tchad, je n'étais pas au courant, je demande pardon au peuple », mais il ne l'a pas fait. Vous savez, chez nous, on dit on ne peut pas courir impunément sur le toit d'un hangar. Vous pouvez tout faire, mais vous allez être rattrapé par votre histoire. Hissène-Habré est rattrapé aujourd'hui par son histoire.
Notre correspondant Tchad, Madjassra Nako, a également recueilli les réactions des passants dans les rues de N'Djamena. Le procès de l'ancien président n'a guère eu de succès car il n'était retransmis qu'en différé et partiellement. Mais la tonalité générale de ces réactions reste la satisfaction.
Je crois que c'est une condamnation à juste valeur, mais... Étant croyant, je trouve que ça ne peut pas arranger grand chose en ce sens que le fait est déjà arrivé et s'il faut condamner à perpétuité alors qu'il a des enfants, des trucs comme ça, je trouve que c'est pas tellement bien, quoi.
Et moi, par rapport au verdict, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que bon, les chefs d'État africains, ils croient qu'après avoir fait subir le mal au peuple, ils ne seront pas du tout rattrapés. Mais si aujourd'hui il est rattrapé, ce serait une leçon également pour ceux qui sont au pouvoir maintenant.
La condamnation de Hissène-Habré est une bonne chose. Il a tué beaucoup d'enfants de ce pays. Le fait qu'il soit condamné aujourd'hui est une bonne chose.
Hissène-Habré n'a pas connu ces crimes-là seul. C'est avec beaucoup de personnes derrière lui. Et voilà maintenant, les gens se concentrent rien que sur le président Hissène-Habré et on le condamne aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'avis.
Frédéric Ancel, cette condamnation d'un ancien président par un tribunal panafricain est une nouveauté. Cela vous semble encourageant pour le fonctionnement des institutions des pays de cette région ?
Ah oui, la réponse est oui. Fondamentalement oui. Les Africains accusent beaucoup les Occidentaux ces dernières années de ne juger finalement comme criminels de guerre ou criminels contre l'humanité que des Africains. Oui, mais en l'occurrence, il se trouve qu'il y a eu effectivement des criminels contre l'humanité, dont Hissène-Habré, mais pas seulement, en Afrique ces dernières années. Or, pour la première fois, eh bien, on a affaire à un jugement intra-africain. Et ça, c'est extrêmement important, comme c'était d'ailleurs très très bien dit par beaucoup de gens, très manifestement très enthousiastes dans votre reportage. C'est le premier point. Deuxième point, ça traduit tout de même un changement par effet de miroir de la politique africaine de la France. Car Hissène-Habré, c'était vraiment la France-Afrique avec un F majuscule. Ça nous renvoie à la fin des années 70, au début des années 80, face d'ailleurs à la Libye du déjà rigolo colonel Kadhafi en 82-83 avec la bande d'Aouzou. Ça nous renvoie à un soutien mordicus de la France à un dictateur, mais en même temps c'était la guerre froide à l'époque. Hein, c'était très compliqué. À l'époque, il y avait aussi Gokouni Wedei face à Hissène-Habré. Et aujourd'hui, on mesure le chemin parcouru quand même. Hein. Ceux qui considèrent que la France mène toujours une politique impériale en Afrique doivent se remémorer tout de même ces épisodes, on en est extrêmement loin. Et puis enfin, je dirais que pour le Sénégal en particulier, c'est important parce que voilà un pays qui joue à fond le soft power. Et sur le plan économique et social, c'est correct. Sur le plan juridique et judiciaire, il a fait la démonstration qu'il pouvait peser dans la cour des grands et c'est absolument pas négligeable.
L'idée qu'il y ait un appel, c'est finalement anecdotique.
C'est là aussi, je dirais, une bonne nouvelle, parce qu'après tout, c'est le fonctionnement d'une institution judiciaire qui tient debout. Hein.
Alors, Frédéric Ancel, parmi les très nombreuses réactions relevées dans d'autres pays de la région, on a entendu le Tchad, mais voici celle recueillie dans les rues de Libreville, la capitale du Gabon, par Yves-Laurent Goma, le Gabon qui organisera une élection présidentielle à son tour en août prochain.
C'est une bonne chose, parce que Hissène-Habré, c'est un tueur.
Celui qui règne par les armes périra toujours par les armes. Son arme qui l'a tué, c'est la justice. C'est bien fait pour lui, pour compenser la douleur des autres.
C'est même faible. Il doit mériter la pendaison.
Ils ont bien fait de juger Hissène-Habré pour la première fois en Afrique, parce que maintenant que nous avons commencé à juger le président africain, je crois que les autres devraient suivre.
Il faut bien que ça fasse peur aux autres présidents pour pouvoir mettre une justice équitable.
Hissène-Habré ne pouvait pas être seul. Il devait être accompagné du commandant en chef des forces armées, M. Idriss Déby.
Hissène-Habré est condamné, c'est vrai, c'est bien. Ça doit faire l'exemple de tous les dictateurs. Que les Français sachent que, on doit juger les Français, ce sont eux qui les mettent là. Nous ne sommes pas indépendants. Hissène-Habré doit être condamné avec tous, Idriss Déby, tous. On doit prendre tout le monde, les Blaise Compaoré, tout ce monde, même celui qui est déjà à ce pays-là, le Côte d'Ivoire là. Tous, on les met ensemble dans la même cellule. Ils doivent manger le riz à terre ensemble.
Oui, voilà, il parlait de Laurent Gbagbo. Alors, Frédéric Ancel, on parle assez peu du Gabon, mais alors justement, le Gabon, il va y avoir une élection présidentielle au mois d'août prochain. Situation politique délicate, là aussi.
Très, très délicate, avec une montée de tension très forte. Hein. Je cite, nous allons organiser une expédition pour nous débarrasser des cafards. Il faut se débarrasser des cafards. Fin de citation, ça c'est de Jean Ping, qui est l'opposant principal hein, à Ali Bongo, hein, qui se représente donc à sa propre succession, vous l'avez bien dit, dans quelques mois, et ça traduit la montée de tension dans ce pays, et pas seulement dans ce pays. J'ai beaucoup travaillé sur le Rwanda. Avant le génocide de 94, les tenants du Hutu Power, les extrémistes, parlaient des cafards. Les Inyenzi en Kinyarwanda, ce sont les cafards. Il y a, je pense, une manière de rhétorique, une manière de discursive extrêmement grave, alors pas seulement là, mais là en particulier, je pense que Jean Ping, l'opposant principal, a eu tort. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit hein, ces dernières semaines, de considérer que ses opposants étaient des cafards. Et je pense qu'il faut absolument que les Africains eux-mêmes, là encore, il n'y a pas de leçon à donner de l'extérieur, surtout pas de la France, mais que les Africains, et en l'occurrence les Gabonais eux-mêmes, y compris éventuellement la justice, se saisissent de ce genre de propos et de ce type de campagne. Je précise que je connais un tout petit peu le Gabon, parce que j'y enseigne la géopolitique depuis 3 ans à l'université Omar Bongo, dans le département de géographie.
Et la situation actuelle est stable, vous paraît calme.
Alors pour l'instant, elle est stable. En tout cas, les militaires diraient elle est sous contrôle. Grâce d'ailleurs doit être rendue à la population gabonaise hein, qui effectivement suit cette campagne, même si on l'a bien vu avec Jean Ping, elle est extrêmement et de plus en plus violente, en tout cas dans les mots, sur le terrain, dans la rue. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de débordements.
La situation pourrait déraper.
Elle pourrait déraper d'abord avec ce genre de propos encore une fois incendiaires. Elle pourrait déraper parce que avec un baril de brut qui était à $140 il y a quelques années, qui est à 40, 50 aujourd'hui, sachant que l'économie gabonaise est mono-exportatrice, hein, c'est-à-dire que plus de 90% des exportations se font dans un secteur, c'est évidemment le pétrole, même si le Gabon commence à exporter d'autres choses, c'est effectivement toujours sur le plan social que ça peut exploser, hein, notamment en période de campagne électorale.
Et puis on ne sait pas si Ali Bongo pourra se présenter finalement.
Absolument, vous avez là aussi, mais là aussi, vous voyez, c'est intéressant, c'est la bouteille à moitié pleine, si vous voulez, dans beaucoup de pays d'Afrique, les juges d'une part, la population d'autre part, la classe politique est de plus en plus responsable, de plus en plus tatillonne sur l'authentique démocratie, hein, sur le système démocratique. Et de ce point de vue-là, je dirais que le Gabon va être, dans ces prochaines semaines, dans ces tout prochains mois, hein, l'un des phares en quelque sorte et l'une des clés de la démocratie en Afrique.
Et justement, le procès de Simone Gbagbo, nous parlions de Laurent Gbagbo à l'instant, s'est ouvert cette semaine à Abidjan. Il est reproché à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire d'avoir constitué une petite équipe pour tenter de maintenir son mari, Laurent Gbagbo, au pouvoir, malgré un résultat défavorable à l'élection présidentielle. Frédéric Gara nous fait le compte-rendu de la première audience.
On est là pour elle. Elle s'estue pour ce pays, la Côte d'Ivoire, on est là.
Les supporters et partisans de Simone Gbagbo ont beau louer l'action de l'ex-dame de fer de Côte d'Ivoire, c'est pourtant bien pour crime de guerre et crime contre l'humanité que la passionnariat du FPI comparait aujourd'hui devant la cour d'assises d'Abidjan. Pour des crimes qu'elle aurait ordonnés depuis la résidence présidentielle au sein d'une cellule de crise. Dans la salle des pas perdus, Marie-Vonne, habitante de Yopougon, a confiance en l'innocence de Simone Gbagbo et dans la justice ivoirienne.
Ce qu'on dit d'elle, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Simone ne peut pas tuer une mouche.
Est-ce qu'elle peut passer des ordres ?
Jamais. C'est une mère de famille ne peut pas dire à quelqu'un « tue une personne parce que moi je veux être présidente, je veux être première dame ».
La justice ivoirienne, qui est mise en cause par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, partie civile dans cette affaire, mais qui dénonce une instruction bâclée. Pour Maître Sungalo Koulibaly, représentant les intérêts de l'État ivoirien, il n'y a pas de problème.
Bon, ça c'est leur droit de penser, mais nous pensons que le juge d'instruction, la chambre d'accusation, ils ont fait un bon travail. Là, nous pouvons juger Mme Gbagbo pour les faits qui lui sont reprochés.
Sortant de la salle d'audience, Abdourahmane Sangaré, cofondateur du Front populaire ivoirien, a un avis différent.
Nous sommes des hommes politiques, nous sommes partisans quand nous parlons, mais les ONG ont quand même plus de possibilités de dire si le droit a été dit ou pas. Je respecte leur décision.
Face à l'acte d'accusation, Simone Gbagbo n'a pas reconnu les faits exposés, un exposé qui doit reprendre ce matin.
Audience à suivre notamment dans nos journaux Afrique. Rouvrir le dialogue avec les leaders de la région du Delta du Niger, c'est la volonté du président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il l'a dit lors de la cérémonie célébrant la première année de son mandat. C'était dimanche dernier. Le président a promis de relancer le programme d'amnistie des anciens dirigeants de la région. Il s'agit de faire baisser les tensions après les attaques à répétition d'un nouveau groupe, les Vengeurs du Delta, contre des installations pétrolières d'envergure, l'Or Boulard.
Muhammadu Buhari ne cédera pas devant les Vengeurs du Delta du Niger, mais il veut éviter un élargissement du conflit. Les responsables des récentes attaques de pipeline seront poursuivis, mais le dialogue avec les anciens leaders militants de la région va être relancé. Comme les Vengeurs du Delta, les anciens membres du MEND, le mouvement d'émancipation du Delta du Niger, revendiquaient en 2009 une meilleure distribution des revenus du pétrole et l'indépendance de la région du Delta. Le gouvernement avait alors proposé une sortie de crise via un programme d'amnistie qui encadrait la réinsertion des membres du MEND, mais qui octroyait également des contrats lucratifs dans le secteur de la sécurité à ses leaders. Des contrats résiliés cette année par Muhammadu Buhari, qui avait aussi réduit les pensions des anciens activistes. Si le lien entre les anciens et les nouveaux militants n'est pas avéré, le président nigérian a décidé de tendre la main aux ex-membres du MEND, déclarant que les récentes attaques n'empêcheraient pas de reprendre le dialogue au plus haut niveau. Une mesure coûteuse pour le président nigérian, mais qui pourrait lui permettre d'isoler les nouveaux militants qui mettent à mal l'économie du pays.
40 jours de deuil au Sahara occidental. Le mouvement pour l'indépendance a perdu son leader historique, Mohamed Abdelaziz, qui dirigeait le Front Polisario et qui avait un seul objectif, obtenir du Maroc, qui administre la région, un référendum pour l'autodétermination de cette ex-colonie espagnole, Laura Martel.
Membre fondateur du Front Polisario lors de sa création en 1973, Mohamed Abdelaziz devient 3 ans plus tard secrétaire général du mouvement qui proclame alors la République Sahraoui. Mais cet État, dont il devient également président en 1982, n'est pas reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. D'abord par les armes, puis sur le plan politique et diplomatique, Mohamed Abdelaziz n'aura de cesse, durant 40 ans, de défendre la cause de l'indépendance. Après la signature d'un cessez-le-feu avec le Maroc en 1991, un référendum d'autodétermination est annoncé sous l'égide de l'ONU. 25 ans plus tard, Mohamed Abdelaziz est mort sans avoir vu ce référendum se tenir. Son décès est une grande perte pour les Sahraouis, mais ce sera aussi une motivation supplémentaire pour le Sahara d'aller de l'avant, souligne le représentant du Front Polisario à Paris. Oubi Bachir se souvient avec émotion d'un homme engagé et proche des populations qui vivait sous la tente dans un camp de réfugiés, dans les mêmes conditions que ses concitoyens. Selon le règlement interne du Polisario, un congrès extraordinaire devrait se tenir sous 40 jours pour élire le nouveau secrétaire général du mouvement qui sera également président de la République Sahraoui.
À noter que l'Algérie voisine a également décrété 8 jours de deuil après le décès de Mohamed Abdelaziz. Revenons à la situation du Tchad, Frédéric Ancel. Tout d'abord, à votre avis, quelle est la position du pays par rapport au djihadisme en général et à l'État islamique en particulier ?
Une opposition frontale. Ça peut paraître faussement paradoxal. C'est-à-dire que le Tchad est un pays bien évidemment majoritairement musulman, un pays musulman sunnite. Donc jusque-là, on a, si vous voulez, 2 points communs avec les djihadistes de Boko Haram. Mais le Tchad est malgré tout un État indépendant et qui fonctionne, en tout cas selon la volonté de ses dirigeants successifs. Alors on a parlé de Hissène Habré tout à l'heure et de Idriss Déby maintenant. Selon les dirigeants d'un véritable État-nation. Autrement dit, le Tchad ne supporte pas qu'on empiète sur son indépendance. Alors ça, c'est intéressant parce que Boko Haram a tenté déjà de croquer à plusieurs reprises des zones près de...
Il n'y est pas arrivé.
Il n'y a pas parvenu. Le Soudan, de l'autre côté, a lancé plusieurs attaques ces dernières années, côté oriental. Et il faut rappeler que donc en 82-83, Kadhafi avait tenté non seulement d'annexer la bande d'Aouzou, mais de descendre jusqu'à Fayal Arjo et plus bas. Et à chaque fois, la réaction des Tchadiens était extrêmement hostile. Eh bien, elle l'est aussi à ce titre-là, cette fois-ci. Et puis la deuxième chose, c'est que l'islam pratiqué au Tchad n'est pas un islam politique. Ce n'est pas un islam politique. Au Sénégal, dans l'ensemble des pays du Sahel, nous avons affaire à un islam que je qualifierais d'apaisé. Mon propos n'est pas moral ni moraliste. Mon propos est très objectif. On ne place pas dans les populations au Sahel l'islam comme revendication politique permanente et encore moins ultra-prosélyte, à la façon de l'islamisme radical, façon Daesh. Autrement dit, l'islam est partie intégrante de la culture, des traditions, de la vie publique et de la vie privée, mais pas au sens politique du terme. Et ça, ça fait toute la différence parce que l'islamisme radical, par définition, tente d'établir, d'imposer une charia extrêmement dure sur un concept fantasmé qu'est l'Oumma. Et ça, encore une fois, au Tchad, ce n'est pas accepté.
Alors, le Tchad a deux frontières assez longues avec deux pays au nord et à l'est qui sont la Libye et le Soudan. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des pays qui sont en difficulté, notamment la Libye. Il n'y a plus d'État quasiment en tant que tel, même si un gouvernement tente de s'imposer avec la communauté internationale. Mais est-ce que le Tchad entretient malgré tout des relations qui peuvent lui permettre de maintenir ses frontières avec ces deux pays et empêcher peut-être la création d'une route du djihadisme ?
Très peu. Vous avez de bonnes relations entre le gouvernement tchadien et des Darfouris. Donc Darfouris, comme vous le savez, en 2003, ont subi des massacres que certains qualifient de génocidaires. Bon. Mais par définition, les Darfouris sont extrêmement faibles. Le Tchad dispose de relais dans des tribus, donc sunnites bien évidemment, au sud de la Libye, c'est très bien, mais ce sont des groupes de quelques milliers de personnes, c'est extrêmement faible en réalité. Le Tchad dispose au sud de relais en Centrafrique, on l'a bien vu d'ailleurs lors de la crise d'il y a 3 ans de cela, où le Tchad d'ailleurs a joué un rôle tout à fait constructif. Bon. Mais à chaque fois, vous avez néanmoins affaire à des petits effectifs qui sont très faibles, dont des États qui eux sont littéralement effondrés. On n'avait pas encore parlé de la Centrafrique. Donc on est vraiment sur un pays qui est l'un des plus pauvres du monde, dont les frontières sont très poreuses, dans lequel il y a donc des bisbilles politiques et institutionnelles, on en a parlé, et qui néanmoins est celui qui est encore le plus solide dans la région. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? C'est-à-dire que en part relative, le Tchad, j'allais presque dire, est la puissance stable qui, elle, est en plein chaos.
Stable, mais en danger.
Mais en danger, absolument.
Frédéric Ancel, merci. Professeur de relations internationales à la Paris School of Business, maître de conférences à Sciences Po Paris, directeur de séminaire à l'Institut français de géopolitique et aussi à l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.